Beryl Dedeoglou. Elle est aujourd'hui directrice du département des relations internationales à l'université de Galatasaray. Elle a d'abord été professeure à l'université de Galatasaray en 2005, puis après avoir fait un doctorat en relations internationales de 88 à 93, puis ensuite directrice du département des relations internationales depuis l'an 2000. Elle est donc une spécialiste de la politique étrangère de la Turquie, des relations Turquie-Union européenne et des théories de l'intégration européenne. Vous trouverez l'ensemble de ses ouvrages sur le site utls.fr. Je vous signalerai simplement les deux dernières. L'Union européenne du passé à nos jours, qui a été publiée en 2002, et l'année dernière, en 2008, Nouvelle balance dans un monde en mutation. Je lui laisse donc la parole pour 45 à 50 minutes, après quoi vous aurez droit, vous aussi, à la parole pour lui poser des questions.
Ça ne marche pas. Ah oui, oui. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais commencer avec mes remerciements. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et votre accueil. Et ensuite, je veux m'excuser à cause de mon français. Et je vais essayer de ne pas être ennuyante dans une samedi. Et je vais essayer d'utiliser le français pour partager mes approches, mes sentiments et ma science. Merci pour cette gentillesse aussi. Et c'est très difficile de définir la politique extérieure de la Turquie si nous disons un sens singulier. Au lieu de dire la politique, je préfère de dire les politiques extérieures ou bien les politiques étrangères de la Turquie. Pour comprendre un petit peu, pour évaluer le changement, ce qui s'est passé aujourd'hui, et je préfère d'aller un petit peu à l'histoire. N'ayez pas peur, je ne suis pas historienne. Je ne veux pas rester dans l'histoire pendant longtemps. Et deuxièmement, je pense que pour évoluer la politique étrangère de la Turquie, il faut se rappeler le système international. Avec cette dimension, je pense qu'on peut diviser la période historique de l'après-guerre froide en cinq étapes. Et on peut discuter ou bien de définir les axes essentiels de la politique étrangère de la Turquie dans cinq périodes. Pour le commencement, j'ai choisi la période de la guerre froide. Ça veut dire après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à les années 1960, au milieu de 60. Comme vous le savez, c'était les années des bipolaires très serrées. Il y avait deux blocs qui sont en rivalité. À cette époque-là, la menace essentielle pour la Turquie n'était que l'Union soviétique. La menace de l'Union soviétique a perçu de deux façons en Turquie. Premièrement, on disait, et il y avait des réalités en même temps, que l'Union soviétique pourrait changer les frontières de la Turquie, même il a des intérêts, l'Union soviétique a des intérêts dans le Bosphore pour utiliser vers le sud, pour passer à la mer Méditerranée. D'autre part, la menace était de changer le régime en Turquie. Il y a une menace de socialisme qui va venir de l'Union soviétique. C'était une époque très dure pour la Turquie parce que c'était la consolidation de la construction de la République. Et la Turquie a fait un choix en choisissant d'être une partie de l'Ouest. En disant l'Ouest, à cette époque-là, pour la Turquie, il y avait un paquet. Dans ce paquet, il y avait beaucoup des États. Il n'y avait pas une séparation entre les États-Unis et les pays de l'Europe. On disait seulement l'Ouest. Et ce qui est essentiel pour la Turquie, d'être dans les organisations de l'Ouest. Et il y a une différence entre les deux, je répète, d'être une partie de l'Ouest, c'est une autre chose. D'être dans les institutions européennes, c'est une autre chose. La Turquie a commencé d'être adhérée à peu près toutes les organisations de l'Ouest, ainsi que l'OTAN, le Conseil européen, etc. Peut-être vous le savez tout. Et pour garder sa régime et pour d'être un peu loin de la pression de l'Union soviétique. À cette époque-là, tous les choix à la politique extérieure ont fait selon les intérêts stratégiques. Et en Turquie, on n'a pas suivi très bien ce qui s'est passé en Europe, à l'intérieur de l'Europe. Parce que le traité de Rome a été signé à cette époque-là et la Turquie n'a pas bien suivi ce qui s'est passé et ce que font les Européens, par exemple. Pour cette époque-là, il faut ajouter quelque chose aussi, qu'en disant l'Ouest, dans la politique étrangère de la Turquie, il y avait des États-Unis au bout de la hiérarchie, en haut, et en bas, il y avait des pays des Européens. Et malheureusement, à cette époque-là, on a vécu le premier coup d'État et la Turquie était en train de discuter les thèmes pour la première fois. Non, on était en train de discuter. Mais dans la politique étrangère, la Turquie a commencé à discuter la laïcité, l'ouverture vers le Moyen-Orient et est-ce qu'on peut construire des liaisons avec l'Union soviétique. Mais c'est la date, c'est la période que le problème chypriote a été commencé. Et je peux dire que le problème chypriote a commencé à prendre une position centrale dans les politiques étrangères de la Turquie. Je ne peux pas dire que la politique étrangère de la Turquie est orientée seulement vers l'Ouest. Il y avait quelques ouvertures vers le Moyen-Orient, mais dans les années de bipolaire, la Turquie a choisi des pays au Moyen-Orient pour contacter, pour améliorer des relations selon la bipolarité. Et comment je peux vous expliquer? Il y avait deux sortes de pays au Moyen-Orient pour la Turquie, ceux qui sont dans le pacte des États-Unis ou bien qui sont des amis des États-Unis et qui sont des amis de l'Union soviétique. Alors la Turquie a amélioré des liaisons avec l'Iran et Israël qui sont des amis, des alliés des États-Unis et n'a pas tourné la tête vers les autres. Il y avait des liaisons entre des peuples, mais je parle de la politique étrangère officielle. Et on peut dire pour cette époque, en conclusion, que la Turquie a défini sa politique du Moyen-Orient selon des relations avec l'Ouest. Mais pendant les années de détente, ça veut dire des 1965 vers le 1978-19. C'est les années bipolaires, mais il y avait des relations. C'est le commencement des relations entre l'Union soviétique et les États-Unis. On disait les années de détente. Et à cette époque-là, le problème chypriote que demain M. Turkmen vous allez expliquer mieux que moi, a pris le poids essentiel dans la politique extérieure de la Turquie. Je peux dire qu'à cette époque-là, l'allié le plus près de la Turquie est devenu plus discutable. Et les Turcs ont commencé de réfléchir à la présence des États-Unis. Et le pouvoir, à cette époque-là, a bien critiqué les États-Unis. Je pense personnellement que la Turquie officiellement a attendu que les États-Unis viennent pour sauver de cette question la Turquie. Mais les États-Unis ont pris un peu de distance à la Turquie. Et il y a eu des crises avec eux. Et pour la première fois, on a entendu en Turquie, il y a eu des manifestations, « Yankee, go home ». Et on peut dire que derrière cette manifestation, il y avait les effets du gouvernement, parce que au pouvoir, le gouvernement avait des sens un peu idéologiquement tiers-mondialistes, un peu anti-impérialistes, on peut dire anti-impérialistes, mais je ne suis pas sûre, mais tiers-mondialistes. On disait social-démocrate. Et soudain, les Turcs ont commencé à connaître les autres peuples du monde et les autres leaders du monde. Pour la première fois, on peut dire que au niveau gouvernemental et au niveau des peuples, tout le monde a commencé à parler de Yasser Arafat. Et après, tout le monde a commencé à connaître Nasser, Tito. Et on a construit des liaisons avec l'Albanie et la Yougoslavie à cette époque-là, avec des jeux de Balkanique, etc., mais en même temps diplomatiques. Et tiers-mondialisme, on a pris une position en Turquie. Mais dans une relation de tension avec les États-Unis, la Turquie a signé l'accord d'Ankara avec l'Union économique européenne. Et je vais vous dire à la fin, mais de maintenant, je vais tirer l'attention, que pendant toutes ces époques, quand la Turquie améliore les relations avec les États-Unis, vous pouvez voir des crises avec les Européens, avec des pays européens, pas les Européens. Et s'il y a des améliorations avec les pays européens, vous allez suivre qu'il y a des crises avec les États-Unis. Et je continue, dans cette époque, dans les années de détente, nous avons encore un autre coup d'État. Et avec coup d'État, nous avons commencé, avant et après coup d'État, nous avons commencé à entendre encore la menace soviétique plus fort. Parce que dans le jargon du gouvernement tiers-mondialiste, il n'y avait pas beaucoup de menaces soviétiques. Mais vers le coup d'État, nous avons commencé à entendre beaucoup plus que la menace soviétique a grandi, ils viendront un jour en Turquie pour changer le système, pour changer les frontières, pour invasionner peut-être le Bosphore. Et après le coup d'État, on peut s'apercevoir tout de suite qu'il y a un rapprochement avec les États-Unis. Alors, troisième période, c'est la deuxième guerre froide, je peux le dire comme ça. C'était les années 1969 vers le 1984-5, c'est les années de transition. Et pourquoi j'ai dit la deuxième bipolarité ou bien c'est la deuxième guerre froide? Parce qu'il y a une invasion de l'URSS en Afghanistan. Et devant cet événement, le bloc de l'Ouest, mais surtout les États-Unis, a préparé un plan. On disait la ceinture verte. La ceinture verte, c'est une politique d'encadrement de l'Union soviétique avec les pays musulmans qui sont fidèles d'une façon à l'autre à l'Ouest, mais d'être musulmane était très, très importante pour cet encadrement de l'Union soviétique. Je pense que c'est très difficile d'être sûr, mais on a imaginé que les musulmans ne peuvent pas être socialistes. Et on a préparé un modèle d'une ceinture verte. Peut-être vous savez, pendant la révolution iranienne, il y a un soutien de l'Ouest. Et pendant en Afghanistan, pendant la guerre d'Afghanistan, un soutien de l'Ouest, surtout des États-Unis. Et chez nous, après le coup d'État, qui est le pire, nous avons vu, c'était 11 septembre le coup d'État, et au 13 septembre, on a signé un traité avec les États-Unis, le traité de coopération en matière de défense et de l'économie. En disant l'économie, n'imaginez pas qu'il y a une économie de marchandages, etc. C'était l'économie au niveau militaire. Ça veut dire... Non, je veux répéter. Avec le coup d'État, je peux dire que les liaisons entre la Turquie et l'Union européenne s'est écrasées. Il y a beaucoup, c'est une période de crise, mais avec les États-Unis, on a commencé de reconstruction des liens au niveau stratégique. Mais à partir de ce temps, dans la politique étrangère de la Turquie, il y a encore deux nouveaux problèmes qui définissent tous les événements, toutes les politiques, toutes les approches de la Turquie. Et l'un, c'était PKK, le terrorisme, et l'autre, c'était Asala, encore terrorisme régional. Alors, avec le problème chypriote, les organisations terroristes régionales ont bloqué un petit peu et ont orienté, ont défini toutes les politiques étrangères de la Turquie. Et on pensait que dans le problème de PKK et Asala, à l'arrière de ces mouvements terroristes ou bien des pressions qu'on fait vers la Turquie, et il y a des étrangers. Mais à cette période, officiellement, la Turquie n'a pas choisi quels sont les pays qui se trouvaient derrière le PKK ou Asala. Quelques partis pouvoir disaient que ce sont les Européens qui provoquent les terroristes pour faire la pression sur la Turquie. Les autres groupes disaient que les États-Unis qui ont fait tous ces grands jeux pour partager la Turquie. On n'a pas décidé jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas la réponse officielle de mon pays, mais je peux dire nettement que tous ces mouvements terroristes ont orienté la politique extérieure de la Turquie au sens désavantageux. Parce que à cause des groupes terroristes et des mesures contre le terrorisme qu'on a prises à cette époque-là, a détruit des liaisons avec les pays européens et avec les États-Unis. Et en plus, pendant la période de la Deuxième Guerre froide, la République du Nord de Chypre a déclaré. Et puis, les relations avec les pays européens ont détruit plus à cause de ces mouvements. Et dans ces conditions, avec le PKK, les effets de PKK, d'Asala, et des liaisons qui ne vont pas très bien avec les Européens, la Turquie a choisi réellement d'ouverture vers le Moyen-Orient dans sa politique étrangère. Pour construire des liaisons, il faut trouver, on a cherché des concepts, des thèmes pour contacter avec les pays qui n'ont pas beaucoup de relations jusqu'à aujourd'hui. Et on a choisi, j'ai dit entre guillemets, l'islam, j'ai dit entre guillemets, et puis la monnaie, pour gagner de l'argent, on peut faire le commerce, on peut faire beaucoup de choses ensemble, on peut réaliser des petites régions économiques, etc. On a défini quelques projets et je peux dire que le gouvernement et l'armée, en même temps, étaient dans le même avis sur ces projets pour la première fois en Turquie. Mais il y a des paradoxes de toute façon, parce que pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, la Turquie a pris une position à côté des pays de l'Ouest et il y avait des très mauvaises relations avec la Syrie à cause du terrorisme et de l'eau, du partage de l'eau. Peut-être vous connaissez la Turquie un petit peu. Il y a des grandes rivières, deux grandes rivières qui va vers la Syrie, et le partage de l'eau et le terrorisme. On disait à cette époque-là qu'il y a une contrebalance entre ces deux pays, terrorisme contre l'eau, l'eau contre le terrorisme. Mais par conclusion, il y avait des relations très, très dures avec la Syrie, même avec la Grèce. On a essayé quelques ouvertures vers le Moyen-Orient, mais les relations avec la Syrie et la guerre entre l'Iran et l'Irak, et en plus la révolution islamique en Iran, n'a pas donné beaucoup de chance à la Turquie pour construire des liaisons. Mais je peux dire que la Turquie a sauté ces pays, a amélioré un petit peu des liaisons avec le Pakistan. Ils sont sautés parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et on a construit, on a signé beaucoup de traités stratégiques et on disait amicales. Mais entre les États, est-ce qu'il y a des liaisons amicales? Je ne sais pas. C'était tout à fait stratégique et un peu consolider des régimes en Pakistan. Et au quatrième période, c'est les années de l'après-guerre froide. Je partage à deux les années de l'après-guerre froide. Le premier période, c'est jusqu'à 11 septembre. Parce que 11 septembre, c'est un changement conjoncturel en même temps. Alors, jusqu'à 11 septembre, je peux dire pour la Turquie qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique, la Turquie a perdu sa menace. Et d'une façon, ça c'est bien, pour construire des liaisons avec tous les pays qui sont désintégrés de l'Union soviétique. Mais d'autre part, devant une menace, c'était plus facile de construire la politique étrangère, même la politique intérieure. Et en montrant que les soviétiques vont venir, c'était très facile d'orienter les gens vers quelques politiques. Et dans la politique étrangère aussi, c'était facile pour tirer l'attention, par exemple, des États-Unis pour un peu, les aides, pour avoir des aides des États-Unis. On a utilisé plusieurs fois la menace de l'Union soviétique. Mais si on perd la menace, c'était une période de transition pour la Turquie. Et la Turquie, premièrement, a eu peur de perdre le soutien de l'Ouest, parce qu'il n'y a pas une menace. À cette époque-là, on a travaillé la plupart dans l'OTAN. Parce qu'avec la dissolution de l'Union soviétique, dans l'OTAN, il y avait une très grande discussion. Est-ce qu'on a besoin encore de l'OTAN? Est-ce qu'il faut élargir l'OTAN? Est-ce qu'on a besoin de nouvelles politiques, de nouvelles politiques pour l'OTAN? La Turquie a voulu agrandir sa puissance dans l'OTAN. Elle était pour l'élargissement de l'OTAN, elle était pour la nouvelle politique de l'OTAN, en disant les nouvelles politiques, c'est-à-dire combattre contre les nouvelles menaces. Ça veut dire les menaces transnationales. À cette époque, la Turquie a choisi deux ouvertures. Le premier, c'était vers l'Union européenne. A mis son avis, c'était vers l'Union européenne. Et l'autre, vers l'Asie centrale et vers le Caucase. Et vers l'Union européenne, et c'est un processus paradoxal à cette époque-là, parce qu'en 1997, on disait, la Commission a dit à la Turquie que vous n'êtes pas capable d'être une membre. Alors la Turquie a un peu choqué. On a dit que alors nous avons des traités, on a réalisé l'union douanière, on a travaillé, on a fait beaucoup de choses. Pourquoi vous avez dit comme ça? Pourquoi vous avez refusé la Turquie en acceptant les autres? On a dit, alors le côté européen a dit que oui, on peut penser, mais pour aujourd'hui, non. Après 2 ans, à Helsinki, la Turquie est devenue comme un candidat de l'Union européenne. Oh, il y avait une fête en Turquie, mais si on examine les conditions qui ont changé entre 2 ans, est-ce que la Turquie a fait beaucoup de choses vers l'Union européenne? Est-ce qu'il y avait un changement définitif en Turquie? Je peux dire non, il n'y avait rien de changement entre ces 2 années. Et la Turquie n'a pas fait beaucoup de choses dans ces 2 années pour être candidat. Mais les conditions internationales ont changé et les Européens ont accepté la candidature de la Turquie. Jusqu'à ce jour-là, la Turquie a compris que les conditions internationales et les conjonctures peuvent aider à la Turquie pour qu'elle devienne une membre. Une membre, peut-être, c'est peut-être exagérante, mais pour le rapprochement vers l'Union européenne. Et à cette époque-là, on a discuté dans ce sens-là. Mais à partir de ce temps, la Turquie a commencé à travailler pour l'Union européenne, vers l'Union européenne, et les réformes ont commencé à partir de ce temps sérieusement. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là, il y a un coup d'État électronique, nous disons comme ça, un coup d'État postmoderne, comme vous voulez. On a vécu ça. Et puis, il y avait des problèmes avec l'Irak. Pour la première fois après la guerre froide, à cause du PKK, on a vécu tellement de problèmes avec l'Irak. Au lieu de Syrie, on a commencé à vivre des crises avec l'Irak. Et la Turquie a commencé à comprendre un petit peu qu'au Moyen-Orient, il n'y a pas seulement des régimes, il y a des gens, il y a des différents groupes, et il y a beaucoup de sortes de gens comme la Turquie. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je vous ai expliqué que la Turquie a fait des groupes selon leur régime. Mais dans ces années, on a commencé de construire des liaisons selon les peuples. Et c'était une nouveauté pour la Turquie de comprendre les gens. Mais d'autre part, l'ouverture vers l'Asie centrale, pendant le commencement, la Turquie a pensé qu'il y a des gens qui attendent la Turquie là-bas. La Turquie a voulu être un nouveau père des nouveaux républiques. Mais on sait très bien que les pays, les gens du centre asiatique ne veulent plus d'un père. Et la Turquie n'a pas calculé l'influence de la Russie dans cette région. Pendant le commencement, on a pensé qu'on peut faire beaucoup de choses malgré la Russie. Et la Turquie essayait beaucoup de choses, même il y a beaucoup de choses qui sont réalisées quand même, Mais on était ému peut-être sur la turcophonie, sur l'islam, je ne sais pas quoi. Il y avait beaucoup des organisations qui ont essayé de construire des liaisons de plusieurs façons. Mais on a compris tout de suite qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses malgré la Russie. Et jusqu'aujourd'hui, il y avait des problèmes avec la Russie sur le sujet du centre asiatique et le Caucase. Mais à partir de ce temps, la Turquie a changé tout de suite la position et a essayé de travailler avec la Russie au centre, dans les pays de l'Asie centrale. Maintenant, la Turquie est en train de suivre cette politique. Je pense que ne bouge pas bilatéralement à l'Asie centrale, la Turquie travaille avec la Russie. Et après, 11 septembre, il y a un rapprochement avec le monde de l'Ouest contre le terrorisme et sur les mesures contre le terrorisme. Il y a un rapprochement de travailler ensemble, etc. Mais on ne peut pas généraliser ça. Parce que si on parle de combat contre Al-Qaïda, on peut trouver beaucoup de choses communes. Mais si on disait combat contre PKK, il y avait une différence entre les politiques étrangères et intérieures des pays. Jusqu'à 2006, je peux dire qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les États-Unis sur ce sujet. La Turquie a voulu tirer l'attention sur PKK et les États-Unis ont voulu tirer l'attention de la Turquie sur Al-Qaïda. Mais il y avait plusieurs des crises et avec l'invasion de l'Irak, on a vécu tellement de crises avec les États-Unis. La Turquie n'a pas voulu être une partie des pays comme les États-Unis qui se trouvent en Irak dans des territoire musulman. D'autre part, la Turquie n'a pas voulu d'être avec les États-Unis à la mer Noire. Et parce que la Turquie est en train de travailler avec la Russie, n'a pas voulu de contrebalancer entre les deux puissances à la mer Noire. Elle n'a pas donné la permission à le passage des navires militaires des États-Unis à la mer Noire. Et on a vécu tellement de crises. On disait que ce sont des crises sur le PKK, mais c'était plus général, je pense. Et à cette époque-là, la Turquie a travaillé son devoir vers l'Union européenne. Avec des crises des États-Unis, il y avait un rapprochement vers l'Union européenne. On a vécu tellement de réformes. C'était une période très, très animée vers l'Union européenne. Je peux vous donner quelques exemples comme le commencement des négociations à Chypre et on a vécu des périodes positives. Et le débat d'ouverture vers l'Arménie a commencé à cette date et zéro problème avec les voisins, le concept a commencé à discuter et on a construit quelques liaisons avec l'Égypte, l'Algérie, la Syrie, le Libanais. Et avec la Syrie, c'était très, très important. On était en train de faire une guerre, mais maintenant, on est très alliés. Et dans 3 ou 4 ans, toutes les conditions ont changé. Je peux dire que la Turquie a tenu la main de la Syrie pour faire gagner au niveau international, et la Syrie a accepté cette aide. Et, comme vous le savez, le gouvernement de Bush a dit aussi que la Syrie est un pays de roc. Alors, il est comme l'Iran, il est comme l'Afghanistan, alors ils sont à l'autre côté. Et la Turquie a résisté, et a sauvé un petit peu la Syrie, et maintenant on a construit des liaisons, des alliances très serrées. Mais à l'intérieur, à partir de ce temps, le processus n'a pas bien marché. Il y avait des pressions qui viennent de groupes. Il y a des résistances. C'est bien, la boîte de Pandore était ouverte et tout le monde parlait de sa position, de prendre sa position. Et chez nous, il y a des groupes de résistance. On disait qu'on vient des bureaucraties. On dit peut-être chez vous kémaliste, mais nous généralisons un petit peu la bureaucratie, l'armée, etc. Et d'autre part, il y a des nationalistes, comme partout. Et il y a beaucoup de sondages qu'on fait en Turquie pour montrer l'évolution du nationalisme de deux sens, qui sont devenus un petit peu anti-européanistes, anti-américanistes, etc. Mais quand on est plus ouvert, je pense que c'est normalement, on sent plus de résistance. Quand on est très loin de l'Ouest, alors on n'a pas besoin de résister. Alors après des années de 2000, la Turquie est devenue plus ouverte qu'avant vers l'étranger. Et je ne peux pas dire que seulement vers l'Ouest, vers l'Est et vers le Nord aussi. Et dans... pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, c'est pas mal, ça va. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire? Que la Turquie est en train d'améliorer les relations avec les États-Unis et la Russie. Bien sûr que dans les objectifs essentiels, l'Union européenne n'a pas perdu le poids. Mais maintenant, il y a quelques crises, vous le savez. Hier, Cengiz, je pense qu'il a bien raconté tous les problèmes. Mais la Turquie n'a pas oublié ce processus. Mais les conjonctures qui viennent avec Obama et le changement de politique de la Russie a donné un petit peu à la Turquie une nouvelle conjoncture d'ouverture. C'est quoi ça? Vous le savez, il y avait beaucoup de problèmes avec les États-Unis et la Russie au niveau nucléaire. Et avec l'Obama, les États-Unis a mis dans la poche maintenant ce projet et contrairement, la Russie aussi a diminué sa politique un peu agressive. Et ils ont besoin de trouver un point commun pour travailler ensemble. On a choisi l'Afghanistan pour travailler. Les États-Unis et la Russie vont travailler sur le sujet d'Afghanistan. Mais ce n'est pas suffisant pour balancer de nouveau le système international, on a besoin encore des partenaires régionaux qui vont mieux avec les États-Unis, même avec la Russie. Et la Russie a voulu partager son pouvoir énergétique avec les États-Unis et les États-Unis vont partager son poids stratégique avec la Russie. Et je pense que la Turquie a proposé, c'est la Turquie qui a proposé cette position, qu'elle peut être le centre de ce croissement, de partager la stratégie et partager l'énergie. Ça veut dire un nouveau centre d'amitié de deux puissances. Et pour la Turquie, dans ces années, ce qui est important, de garder cette position entre les États-Unis et la Russie. Ça, c'est le cadre général. S'il n'y a pas beaucoup de problèmes avec les États-Unis et la Russie, la Turquie peut traiter plusieurs agréments, plusieurs relations avec tous les voisins. Ce sera plus facile. En disant tous les voisins, je pense que la Turquie ne regarde pas seulement les gouverneurs. Et c'est une nouveauté pour la Turquie dans la politique étrangère. La Turquie travaille au niveau gouvernemental, même au niveau des peuples, avec des organisations civiles, des NGO, avec des businessmen, etc. Il y a deux niveaux d'ouverture. Ils sont liés ou non. Quelquefois, il y a des paradoxes entre eux, mais la Turquie a trouvé cette chance pour aujourd'hui. Ce qui est manque dans ces relations, tu ne vas pas très bien, bien sûr. Personnellement, ce que je vois, c'est que toutes ces ouvertures peuvent argumenter à l'adhésion de l'Union européenne. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez peut-être une Turquie à deux lignes. Une Turquie qui a des relations avec des pays du Moyen-Orient, au centre asiatique, etc. Et d'autre part, il y a des liaisons avec l'Union européenne. On ne sait jamais quand la Turquie deviendra une membre. Ce qui manque dans la politique étrangère de la Turquie, je répète qu'il n'y a pas beaucoup de corrélation entre ces politiques. J'espère qu'on va reconstruire toutes ces relations. Bon, pour l'avenir, parce que le sujet, c'est le futur de la Turquie en même temps. Et pour le futur, je ne peux pas dire beaucoup de choses. Je n'ai pas un bol magique, mais je peux dire que ça dépend selon les politiques des États-Unis d'Obama, tout d'abord. Après, selon l'Union européenne, selon la Russie et l'avenir du gouvernement chez nous. Si tout va comme aujourd'hui, je pense qu'il y aura un développement, la continuité de le développement dans les politiques étrangères et internes de la Turquie. Mais s'il y aura des ruptures, l'un d'eux, nous allons voir des petites crises encore. Pour finir, que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une anomalie avec les relations des États-Unis et l'Union européenne. J'ai une étude, mais je n'ai pas préparé pour aujourd'hui, mais je peux partager avec vous. Je vais vous montrer, si je trouve, bien sûr. Gémeaux. Vous voyez peut-être.
Oh non. Non, c'est impossible.
Non, c'est ici peut-être. Vous voyez? C'est par là. Je ne bouge pas. Non? Non. Je vais vous raconter. J'ai fait un axe des relations. Verticalement, j'ai dit des relations, des qualités de relations. C'est mauvais, moyen, très bien. Et j'ai mis des années. Et j'ai pris seulement les traités stratégiques, etc., avec les États-Unis et l'Union européenne, qui nous montrent la qualité et la soutenabilité des relations. Alors, le premier ligne, c'était comme ça, avec les États-Unis, il y a des crises, il y a des événements, il y a des crises, il n'y a pas une liaison linéaire. Et avec l'Europe aussi, on peut dire la même chose, il y a des crises, il y a des bonnes journées, il y a des mauvaises journées, etc. Mais si on met les deux en même temps, c'est comme ça. L'un va vers l'en bas et l'autre en haut. C'est comme ça. Alors, c'est un cas. Et c'est pas moi qui a fait ça. Alors, j'ai choisi quelque chose. C'était une étude académique. Et quand j'ai aperçu ça, j'ai dit, il y a un problème entre les États-Unis et l'Europe. Pas avec la Turquie. J'espère bien qu'il y aura, j'espère bien pour l'avenir de la Turquie et pour tout le monde, pour tous les voisins, que les axes essentiels de la politique étrangère de la Turquie vont continuer comme aujourd'hui. Merci pour votre attention.
Nous allons passer aux questions. Quel endroit, vous voyez ? Ah, voilà, oui. Vous pouvez aller donner le micro, s'il vous plaît ? Un monsieur qui...
Bonsoir madame. J'aurais aimé savoir s'il existe des relations particulières sur le plan de la politique étrangère de la Turquie avec les pays turcophones de l'ex-Union soviétique.
Oui. À partir de changer la politique malgré la Russie, maintenant il y a des liaisons particulières avec les pays asiatiques turcophones. Au niveau stratégique, au niveau énergétique et au niveau humanitaire et commercial. Mais peut-être il faut faire une comparaison pour évaluer le poids de la Turquie. Alors, si on fait une comparaison, par exemple, dans la région, oui, la Turquie est au premier rang. Mais si on fait une comparaison avec la Russie, je ne peux pas dire que la Turquie a pris la position de la Russie. Il ne faut pas exagérer la position.
Alors, une question là, oui, allez-y.
Bonsoir. Dans le cadre de l'Europe, est-ce que vous voyez des pays qui ont des relations privilégiées avec la Turquie, comme peut-être l'Italie ou l'Allemagne? Comment est-ce que vous voyez plus en détail les relations Turquie envers ces pays?
Merci. Je pense que les relations privilégiées en Europe avec la Grèce, parce que les autres sont plus conjoncturelles. Et avant, avec la France, il y avait beaucoup de relations. Mais maintenant, il y a des crises. C'est conjoncturel. Je pense pas qu'avec Merkel va continuer les conditions. Et avec l'Italie même, maintenant, il y a des liaisons stratégiques, on est dans la même chambre, etc. Mais je ne peux pas garantir pour l'avenir. Mais avec la Grèce, on a des intérêts communs. Et les conditions ont changé. Et la Turquie et la Grèce ont changé. Je pense que les relations privilégiées, c'est avec la Grèce.
Oui, bonjour. Bonjour et merci. Je n'ai rien entendu sur la relation avec Israël et le conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la position de la Turquie?
Vous avez tout à fait raison, j'ai resté aux questions. Il y a un changement dans la politique de la Turquie vers l'Israël. Ce changement n'est pas au niveau, comment je vais expliquer, parce que depuis longtemps, comme tous les pays, la Turquie aussi a pris une position à côté des Palestiniens. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux Palestiniens, il y a deux autorités palestiniennes, et il n'y a pas un consensus sur ce sens-là dans l'Ouest, entre guillemets. Si on parle de Hamas en Turquie, on disait « Ah oui, nous savons, la Turquie est devenue islamique ». Si on dit « Al-Fatih, ah, nous savons, alors la Turquie est devenue jacobin ». Alors les Turcs, dans ce sens-là, n'ont pas beaucoup de chance, mais le gouvernement a pris une position à côté de Palestiniens en critiquant les politiques israéliennes. Mais d'autre part, il y a des liaisons intimes et stratégique avec Israël. La Turquie ne peut pas, ne veut pas de couper toutes ses relations avec Israël. Parce que Israël et la Turquie le savent très bien pour l'avenir, que pour la stabilité du Moyen-Orient, on a besoin d'un Israël pacifique, d'un Turquie pacifique. Et alors, des relations sont en train de continuer, mais pour ne pas tirer beaucoup d'attention des peuples, des sentiments des peuples, on ne réclame pas beaucoup.
Alors, y a-t-il une autre? Il y en a une là.
Oh. Oui, merci, Paul Arnaud. J'ai été très surpris de la visite de Manjoute vers les mois d'octobre-novembre 2007 de M. Gül, qui est président de la République de Turquie, qu'il a effectué à Berlin. Les journaux allemands l'ont commenté longtemps et il a dit, grosso modo, qu'il y avait des incompatibilités à ce qu'il y ait des chocs de société entre la Turquie, l'Allemagne. Et je voulais vous demander, vous poser une question sur les relations. Oui. Je recommence.
J'ai rien compris. Hein.
Quelle est la question ?
Oui, non mais Monsieur Gül, président de la République turque, a fait une visite de chef d'État à Berlin. C'était en octobre-novembre 2007. Et il l'a dit, il y a des conflits de société, des chocs culturels, etc. Et les Turcs nombreux qui sont en Allemagne ne sont pas les mieux venus à rester dans le pays. C'est allé très loin. Ça a été beaucoup commenté dans les journaux allemands. Et puis il est revenu une deuxième fois de suite où son premier ministre, M. Erdogan, et puis position inverse. Alors quel est, je pense que vous en avez été au courant en Turquie, quel est l'état des relations entre la Turquie et l'Allemagne? Est-ce que ça, en France on n'en a pas parlé, mais je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose, un retournement? C'est pas vraiment un retournement dans la mesure où ça a été un pas en avant, un pas en arrière. Alors, mais qu'en est-il exactement pour vous?
Si j'ai bien compris, je me demande deux questions. Et avec l'Allemagne, les relations sont comme en avant. Il n'y avait pas une très grande amélioration, il n'y a pas beaucoup de crises. Parce qu'il y a beaucoup de liaisons, même économiques, même sociales et politiques. Comme en avant, il n'y avait pas, je ne peux pas vous dire qu'il y a une attaque positive avec l'Allemagne ou bien une crise avec l'Allemagne. Mais la deuxième question, qu'est-ce que la Turquie pense, les citoyens allemands, turcs, n'est-ce pas? Alors, dans ce sens-là, la Turquie est en train d'apprendre à faire la politique. On ne sait pas très bien comment on va utiliser un langage avec des gens qui ont d'une nationalité d'Allemagne, mais d'origine turque. La Turquie va apprendre. On a fait tout à fait la même chose en Irak avec les Turkmènes. Et on ne peut pas généraliser même d'origine turque les citoyens allemands dans le même paquet. Il y a des différents groupes et Gül parle en regardant d'un groupe, Erdogan parle en regardant d'un autre groupe. On ne peut pas généraliser. Mais dans la politique intérieure de l'Allemagne, il y a les effets d'origine turque. Il y a beaucoup plus qu'avant.
Voilà. Alors, il y a des questions par là. Mademoiselle, oui.
Bonjour. Est-ce que, selon vous, l'ouverture kurde du gouvernement actuel va trouver sa voie dans les scènes internationales? Qu'est-ce qu'il va apporter à la Turquie?
La voie au niveau international, ça ne sert à rien. S'il y a un poids réel dans le système international, ça veut dire que la Turquie est un pays plus développé, plus stable qu'avant. Et je pense que la Turquie cherche d'être une position de puissance régionale, mais ce n'est pas facile et il ne faut pas exagérer cette position. Mais au niveau international, par exemple, en étant entre G20, c'est vraiment très important, être dans le Conseil de l'Union européenne, dans le Conseil de sécurité, oui, c'est très important. Mais ce qui est plus important, de prendre une position devant la crise. La Turquie ne peut pas être une puissance régionale en temps de stabilité. La Turquie peut être joueur dans une grande région au niveau pacifique. Mais elle peut devenir une puissance régionale devant la crise. S'il n'y a pas de crise, la Turquie ne peut pas être une puissance. Elle ne cherche pas parce qu'il y a des risques. Mais s'il y a des crises, des guerres, des choses comme ça, la Turquie peut devenir tout de suite une puissance régionale.
On va prendre encore deux questions. Donc, monsieur là, et puis en haut, il y a quelqu'un. Regardez. Voilà.
Je peux ?
Oui, allez-y.
Bonsoir, mesdames. Voilà, vous avez parlé de la Turquie, sa politique étrangère, à partir de la création de la Turquie en 1923 par Mustafa Kemal. Mais vous avez fait un survol, disons, sans évoquer les tendances des gens qui ont dirigé la Turquie, disons, depuis Mustafa Kemal. La Turquie, enfin, quand on regarde de l'étranger, pour moi, il n'était qu'indépendant à l'époque de Mustafa Kemal, de 23 jusqu'à 38 dans sa politique étrangère. Voilà. Et sa devise était paix dans la patrie, paix dans le monde. C'est une magnifique devise de Mustafa Kemal. Et il a réussi. Il a élevé la Turquie et son désir le plus éloquent, le plus peut-être, disons, fantastique, il voulait élever la Turquie au niveau de l'Occident. Mais sa mort prématurée, sa mort jeune, avec Inonu, ça n'a pas pu réussir. La Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas réussi. Donc, notre politique indépendante, avec, disons, à 49, c'est mort, avec la démocrate partie qui est venue, à la tête de la Turquie. Leur première chose qu'ils ont fait, vendre la Turquie aux États-Unis, via européenne. Toutes ces minerais, toutes ces bases américaines, minerais vendus, les bases américaines créées en Turquie. Et grâce à ces bases américaines, les Américains ont commencé à impérialismer dans le Moyen-Orient.
S'il vous plaît, monsieur, quelle est votre question?
Attendez, avec cette politique, disons, qui a commencé comme ça, qui a abouti jusqu'à maintenant aux islamistes à la tête de la Turquie, on ne peut pas prétendre que la Turquie a une politique indépendante. Est-ce que vous croyez que, avec trois quarts de ces femmes qui ne voient pas, disons, au-delà de deuxième classe de la secondaire, avec cette Turquie-là, on parle, disons, d'enrichissement, on parle de ça. Est-ce que vous croyez que cette Turquie peut entrer à l'Europe, madame?
Voilà.
Avec sa politique indépendante.
OK, voilà. Merci. Bon. La dernière question là-haut. Voilà.
Au début, j'ai dit que c'est très difficile de parler de la politique étrangère de la Turquie. Il y a des politiques étrangères de la Turquie. Et en plus, il faut accepter qu'il y a beaucoup de Turquie en Turquie. Et on ne sait jamais qui fait la politique extérieure. Moi, ici, j'ai fait une analyse personnelle. C'était une approche personnelle. Je ne suis pas un représentant du gouvernement ou bien de quelqu'un, je ne sais quoi. Il y a plusieurs sortes de faire de la politique étrangère. Il y a beaucoup des effets qui influent les tendances d'un pays. Mais il faut accepter que le monde a bien changé. Et je suis sûre qu'avec le changement des paramètres au niveau international, la Turquie a pris son identité plus fort qu'avant.
Alors, la dernière question, s'il vous plaît.
Madame, je voudrais vous poser une question sur le problème chypriote. Certes, je pourrais le poser demain,
oui.
Mais c'est justement à vous, universitaire, naturellement objective. Je voudrais savoir si vous trouvez normal qu'un État moderne comme la Turquie, moderne, démocratique, occupe une partie d'un pays voisin pour la raison qu'il y a une minorité importante dans ce pays. Certes, en Europe, il y a eu beaucoup d'exemples avec beaucoup de conflits en raison des minorités. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2009. Considérez-vous comme normal qu'un pays moderne comme la Turquie occupe une partie d'un pays voisin pour cette raison de l'existence d'une minorité importante? Merci pour votre réponse.
De rien. Alors, personnellement, je suis tout à fait contre toutes sortes d'occupations. Étant un professeur, étant une enseignante, étant un être humain, je ne peux pas accepter toutes les sortes d'occupations. Mais malheureusement, dans les relations internationales, au niveau international, on parle, c'est très difficile de parler d'égalité et de parler, de calculer, de ne pas parler sans calculer des intérêts nationaux. Le problème chypriote est un problème des intérêts des États, de la Grèce, de la Turquie, même les autres. Mais on discute jusqu'à aujourd'hui le problème chypriote que M. Turkmen va vous expliquer demain mieux que moi. Et je pense que si Chypre ne devient pas une membre de l'Union européenne, les conditions, ce sera plus facile pour les Chypriotes, pour les deux côtés. Maintenant, la Turquie, un petit peu, aide à la négociation. C'est une nouveauté pour la Turquie. Avant, il y avait des autres politiques. Mais d'autre part, il y a beaucoup de gens qui pensent que si la Turquie ne deviendra pas une membre de l'Union européenne, pourquoi va faciliter la main des Européennes? Voilà un nouveau débat sur Chypre. Mais c'est le 47e, si je ne me trompe pas, c'est la 47e négociation est en train de suivre. Moi, je suis optimiste sur ce sujet.
Bon, bah écoutez, on va conclure sur cette... Et donc, je vous... Le débat...